Chapitre 9. Début d'enquête. Si l'énigme de la chambre 622 prenait ses racines à Genève, comme cela nous semblait être le cas, c'était là-bas qu'il fallait nous rendre. C'est ainsi que le matin du mercredi 27 juin 2018, Scarlett et moi prîmes la route pour la ville du bout du lac Léman. Pendant le trajet, Scarlett me dit « J'ai trouvé dans votre suite des notes concernant Bernard. Vous avez fouillé ?»« Non, elles étaient sur votre table de travail. Je pensais qu'il s'agissait du livre, je voulais mettre de l'ordre. » « Vous les avez lus ?»« Oui. J'ai trouvé que votre relation était touchante. J'ai eu envie d'en savoir plus. Que voulez-vous savoir ?»« Tout. Racontez-moi un peu qui était Bernard. »« Je ne saurais même pas par où commencer, » dis-je. « Commencez par le commencement, » suggéra-t-elle. « En général, c'est le plus simple. Racontez-moi comment vous avez rencontré Bernard. Comment un jeune auteur inconnu s'est lié avec un vieil éditeur. »« C'est une longue histoire, » répondis-je. « Je ne suis pas pressé, et nous avons un peu de trajet de toute façon. » Je souris. Bernard et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans. Je me souviens de cette journée d'été torride de la fin juillet où tout commença. Paris suffoquait. J'y étais arrivé le matin même de Genève. Je m'étais employé à un effort vestimentaire de circonstance, chemise et blazer, comme si j'allais à un entretien d'embauche. Je voulais le convaincre de mon sérieux. Il m'avait fixé rendez-vous à la librairie L'Âge d'Homme, rue Férou. Aujourd'hui devenu un glacier. J'y arrivais en sueur, accablé par la chaleur. Lui m'y attendait déjà, installé dans la petite salle de réunion du sous-sol. À cette époque-là, j'avais 26 ans, je venais de terminer péniblement mes études de droit que j'avais passées à écrire des romans. Tous les jours, au lieu d'aller à l'université, j'étais allé chez ma grand-mère, qui avait libéré l'une des pièces de son appartement pour que je puisse y aménager mon bureau. Ma grand-mère fut la première à croire en moi et à me prendre au sérieux. Grâce à elle, durant mes 5 années d'études, j'avais écrit coup sur coup 5 romans, envoyé les uns après les autres à tous les éditeurs possibles et imaginables, et tous avaient été refusés. Il y avait de quoi désespérer. Puis voilà qu'en janvier 2011, mon 5e livre, un roman historique consacré au Special Operation Executive, une branche des services secrets britanniques qui avait opéré avec succès pendant la Seconde Guerre mondiale, fut repêché par Vladimir Dimitrievitch, fondateur des éditions L'Âge d'Homme à Lausanne, qui décida de le publier. Mais avant que cela ne puisse se faire, Vladimir Dimitrievitch se tua dans un accident de voiture. À son enterrement, je rencontrai Lidwin Ely, une amie parisienne de Dimitrievitch, qui m'apprit que celui-ci avait parlé de mon roman à Bernard de Fallois et lui avait proposé de faire une coédition. « Il faudrait que vous rencontriez Bernard de Fallois, » me dit Lidwin après la cérémonie funèbre. « Peut-être cela l'intéressera-t-il de faire paraître votre livre. » Lidwin devint ma bienfaitrice. Elle me prit sous son aile et organisa un rendez-vous avec Bernard de Fallois. C'est ainsi que j'allais le trouver en ce chaud mois de juillet à Paris. Et comme c'est souvent le cas dans les grandes amitiés, entre lui et moi, ça a très mal commencé. Paris, 7 ans plus tôt. Je ne pense pas que je publierai votre roman. L'homme qui venait de parler et se tenait devant moi avait une allure de général. Élégant, seigneurial, l'œil vif. La légende de l'édition française, Bernard de Fallois. Malheureusement, je sentais comme un fossé générationnel entre lui, 85 ans, et moi, jeune auteur non publié de 26 ans. « Pourquoi pas ?» osais-je lui demander. « Vous présentez votre livre comme un roman historique, mais je ne crois pas que ce que vous racontiez soit vrai. Les Anglais n'ont pas pu faire tout ça. Je vous assure que c'est pourtant la vérité. Et puis, en quoi la guerre vous intéresse-t-elle ? » m'interrogea Bernard d'un ton suspicieux. « Vous ne l'avez pas vécu !» Et alors ? Il eut une moue peu convaincue. « Vous n'allez quand même pas me faire croire que c'est grâce aux Anglais que la résistance française a pu combattre les Allemands !»«
Je peux vous le prouver, » plaidai-je. « C'est un sujet méconnu, d'où l'intérêt de ce roman. »«
Je suis désolé, mais je ne crois pas que je publierai votre roman. »
En sortant du rendez-vous, je déambulais à travers Saint-Germain, déprimé et accablé. Tout était fichu pour moi, autant arrêter d'écrire. Mes livres ne seraient jamais publiés. Je ne serais jamais écrivain. C'était la fin de mes plus grands espoirs. Je me serais bien jeté dans la Seine. À la place, j'allais flâner à la librairie Gibert-Joseph, boulevard Saint-Michel, et fouiller le rayon de livres d'histoire. Je trouvai plusieurs titres consacrés à l'action des services secrets britanniques entre 1939 et 1945. J'en notai les références et préparai une petite bibliographie à laquelle j'ajoutai les sources utilisées pour mon roman, puis j'envoyai le tout à Bernard. Je ne reçus aucune nouvelle de lui, jusqu'au vendredi 26 août 2011. En fin de journée, je reçus un appel de Lydwine Ellie. « Bernard va publier votre livre », m'annonça-t-elle. Lydwine avait fini par convaincre Bernard. Et c'est ainsi que mon premier roman parut finalement en janvier 2012. « Et ce fut un immense succès », m'interrompit Scarlett dans un élan d'enthousiasme. « Pas du tout. Ce fut une catastrophe. » Elle éclata de rire. « Vraiment ?»« Vraiment. Bernard était désagréable avec moi, je ne pouvais pas le supporter et réciproquement. Le roman s'est très mal vendu, quelques centaines d'exemplaires. Je me suis juré de ne plus jamais travailler avec lui. »
« Et que s'est-il passé ensuite ?»«
La suite, la prochaine fois, » décrétai-je. « Nous sommes presque arrivés à Genève. » Nous venions de sortir de l'autoroute et nous nous dirigions vers le centre-ville, longeant au passage les différents bâtiments des organisations internationales. Nous aperçûmes bientôt le bord du lac et le jet d'eau en arrière-plan. Je fis remarquer à Scarlett, « Vous savez que j'ai pris cette route, mais dans l'autre sens, il y a exactement 3 jours. »«
Ne jouez pas les rabat-joie, l'écrivain, ça vous va très mal. Et puis, vous pourrez toujours retourner chercher des chaussettes chez vous, s'il vous en manque.
Je pourrais rentrer chez moi tout simplement et vous mettre dans un train pour Verbier. » Elle éclata de rire. « Vous ne le ferez pas.
Vous voulez être à Verbier avec moi ?»
Je retins un sourire. Elle le remarqua. « N'essayez pas d'être toujours si sérieux, l'écrivain. Vous n'êtes pas crédible. » Nous traversâmes le pont du Mont-Blanc. Nous nous dirigions vers Cologny, les beaux quartiers dominant Genève. À l'époque du meurtre, c'était là-bas que vivaient Macaire et Besnère. Je dois reconnaître que j'étais très impressionné par Scarlett. Elle avait fouillé Internet dans ses moindres recoins et y avait déterré une quantité impressionnante d'informations. Par exemple, cet article de l'Illustré, l'un des grands hebdomadaires de Suisse francophone consacré à Macaire et Besnère, est publié quelques mois avant le meurtre. Le texte était illustré d'une photo de Macaire et de sa femme, Anastasia, qui posait devant leur maison. Nous ignorions l'adresse exacte, mais le nom de la rue était mentionné, chemin de route. C'est là que nous nous rendîmes. Je roulais au pas et nous inspectâmes les maisons de chaque côté de la route. Soudain, Scarlett s'écria. « C'est là !» Devant nous, un large portail en fer laissait apparaître une maison similaire à celle sur la photo du magazine. Une magnifique demeure en pierre blanche dominant le lac, entourée d'un vaste parc.